IDFM Radio, le média valdoisien. Bienvenue sur IDFM Radio. C'est la rentrée pour l'économie en direct et quel bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Les jours et les horaires ne changent pas. Ensemble, tous les mardis et vendredis de 9h30 à 11h, je donnerai la parole à mes fidèles et nombreux invités. Jacqueline Voraz avec Christophe et Sabrina à la technique. Bonjour Christophe, bonjour Sabrina. Une émission à écouter en FM sur la fréquence 98.00, en web radio sur 98.fr, DAB+ sur toute l'Île-de-France et bien sûr dans le monde entier grâce à notre appli. Septembre est souvent synonyme d'été indien avec ses couleurs chatoyantes et un souffle de douceur avant l'arrivée de l'automne. Pourtant, alors que nous profitons de ces moments paisibles, ce mois de septembre nous rappelle une réalité bien plus sombre, celle des enfants qui luttent contre le cancer. Et ce mois en or, symbole de la sensibilisation au cancer pédiatrique, nous invite à passer de la contemplation à l'action, à transformer notre chaleur intérieure en soutien et en espoir pour ceux qui en ont le plus besoin. L'occasion pour nous ce matin d'évoquer d'abord un lieu à part, celle d'un hôpital uniquement dédié aux enfants, l'hôpital d'enfants de Margency, géré par la Croix-Rouge française, mais aussi l'occasion d'évoquer l'association Élise, princesse courageuse, toujours mobilisée et active pour susciter les appels aux dons et ainsi mieux lutter contre les cancers pédiatrique. Un sujet difficile et poignant. Heureusement, de nombreux acteurs bienveillants, professionnels de la santé, élus, chercheurs, bénévoles sont là pour se consacrer à l'amélioration des soins, du soutien et de la recherche pour les enfants touchés par cette grave maladie. Voilà, mon introduction est un petit peu longue ce matin, mais il me semblait important de préciser tout ça. Alors, parmi ces acteurs et actrices, avec moi dans le studio, Isabelle Pharaon. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes médecin-chef de l'hôpital d'enfants de Margency. Nous découvrirons avec vous cet établissement de santé privée d'intérêt collectif, un ESPC. Son histoire, son organisation, ses patients, vos missions et toutes ses spécificités. À vos côtés, Thierry Brun, maire de Margency. Bonjour monsieur le maire.
Bonjour Jacqueline et merci pour l'invitation sur IDFM Radio 98.
Également merci d'avoir accepté mon invitation. Vous savez que c'est toujours un bonheur de vous accueillir avec nous ce matin pour nous expliquer comment cet hôpital s'inscrit dans l'histoire de la commune, le retour de vos administrés concernant l'existence de cet hôpital, vos missions et soutiens en tant qu'élu. Bref, beaucoup de questions auxquelles je suis sûre vous nous apporterez toutes les réponses. Et à vos côtés, Vanessa DeVos. Bonjour Vanessa.
Bonjour Jacqueline.
Merci infiniment pour votre présence à nos côtés. Maman d'Élise, décédée très jeune des suites d'un cancer. Vous êtes infirmière cadre de santé, vice-présidente bénévole de l'association Élise, princesse courageuse, qui œuvre sans relâche dans la prise en charge du cancer de l'enfant à travers plusieurs actions, dont plusieurs récentes, avant les vacances à Margency précisément, et tout ce mois de septembre à Montmorency et Deuil. Et on va bien sûr parler de tout ça. Oui. Encore merci d'être tous les trois les invités de l'économie en direct. Une émission à retrouver en podcast sur le portail de la radio idfm98.fr. Juste avant de vous donner la parole, j'ai un communiqué de presse à vous lire pour un événement déjà largement relayé sur notre antenne et qui va avoir lieu ce soir. Un concert au profit du sauvetage du château de Vigny. Alors ce soir, 6 septembre 2024 à 20h30, au sein du parc du château de Vigny, dans le Val d'Oise, aura lieu un grand concert de mécénat. Ce château réouvrira exceptionnellement ses grilles pour cet événement, après quasiment une décennie de fermeture, du fait de lourds travaux d'urgence qui y sont menés. Lors de ce concert s'exprimera le génie musical de Max Richter par son indescriptible et envoûtante recomposition des quatre saisons de Vivaldi et d'autres œuvres du répertoire néoclassique. Le temps d'une soirée, ces œuvres viendront faire revivre les pierres du château de Vigny. Elles seront interprétées par Marie Samuelsen, l'une des plus grandes solistes contemporaines, acclamée sur la scène internationale et qui fera le déplacement spécialement depuis la Norvège. Elle est l'une des seules à avoir joué en ces lieux, en des lieux aussi extraordinaires que la cité interdite de Pékin. Marie Samuelsen sera accompagnée de So-Young Yoon, également une soliste de renommée internationale, faisant le déplacement depuis la Corée du Sud, et de l'Orchestre National d'Île-de-France, composant un ensemble symphonique de plus de 24 instruments. Le concert se tiendra à la nuit tombante avec un jeu de son et lumière sur la façade du château, derrière la scène placée dans le parc, lui aussi exceptionnellement réouvert pour l'occasion. Ce concert est organisé dans le cadre particulier du sauvetage du château de Vigny, mené avec le soutien de la Fondation du patrimoine, la demeure historique et la DRAC. La participation à ce concert permettra aux entreprises du Val d'Oise de s'associer à l'opération ainsi engagée afin de contribuer grâce aux fonds collectés au sauvetage du château de Vigny, en péril car profondément et structurellement touché par une massive attaque de mérule. La mérule étant un champignon très très nocif. L'occasion également pour les représentants des entreprises du département, tout en s'associant à cette opération de mécénat pour la sauvegarde de ce monument éminent du Val d'Oise, de passer une soirée inoubliable dans un cadre exceptionnel aux portes de Paris, au cœur du parc naturel régional du Vexin français. Un événement ouvert à tous, mélomanes, mécènes, amoureux du patrimoine et des vieilles pierres, familles souhaitant prolonger l'été à la rentrée dans un cadre bucolique et pour lequel ont été mis en place différentes catégories de places, donc des places mécénat, places catégorie 1, places champêtres avec placement libre dans le parc et tarifs dégressifs pour les enfants. Pour exemple, les places champêtres sont à partir de 18 euros. Il n'est pas trop tard pour réserver, bien que ce soit ce soir. Et pour plus d'informations et réservations, vous pouvez aller sur le site www.chateauvigny.com/concert. Merci pour votre attention à ce communiqué de presse.
IDFM, 98FM.
C'est l'économie en direct et pour démarrer cette nouvelle saison, septembre en or oblige, nous allons un petit peu mieux découvrir l'hôpital d'enfants de Margency et l'association Élise Princesse Courageuse avec à mes côtés Isabelle Pharaon, médecin-chef de l'hôpital d'enfants de Margency, Thierry Brun, maire de Margency, Vanessa DeVos, vice-présidente bénévole de l'association Élise Princesse Courageuse. Pardon. Isabelle Pharaon, je commence avec vous. Alors, si l'hôpital d'enfants de Margency est bien connu sur notre territoire, j'ai dit en préambule qu'il restait un lieu à part, d'autant plus que je crois qu'il faut souligner qu'en France, il n'y a pas tant que ça d'hôpitaux pour enfants.
Il existe, hein, il y en a. Hein, donc, mais Margency a été vraiment un cheminement depuis pas mal d'années.
Oui.
C'était considéré avant tout comme un sanatorium hein, au tout début,
d'accord,
en 1948, où il y avait quand même. Et après, progressivement, ils ont fait la pouponnière où il y avait des différentes pathologies. Vous savez, la nutrition sur le plan nutritionnel, je vous dis, il y a la nutrition entérale, c'est-à-dire par la sonde,
oui,
ou bien par le cathéter. Tout ça, ça a été progressivement mis en place et fait en France, et jusqu'à ce qu'on a pu ouvrir dans ce château-là, qui a été légué, hein, c'est un legs, qui a été légué pour faire poursuivre après les enfants qui ont besoin de nous à un moment donné de leur vie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout le temps à l'hôpital.
Voilà. Oui,
mais qui peuvent sortir,
d'ailleurs.
Oui, heureusement pour eux, et qui sortent un peu de l'aigu. Donc il y a plusieurs pathologies. La pathologie cancéreuse a été prise en charge vraiment avec la mise en place de tout un service par le docteur Françoise Aubier. Hein. C'est elle la première qui a construit, édifié le projet de la prise en charge du cancer dans notre établissement. En parallèle, il y avait les autres pathologies, hein, donc voilà.
Et excusez-moi, toujours sous la tutelle de la Croix-Rouge.
Oh, totalement. Oui, tout le temps. On nous appelait avant quand j'ai en 1996, c'était le centre thérapeutique pédiatrique.
D'accord.
Après, donc. On a changé avec l'ancien directeur, Monsieur Muller. Donc, on a changé vraiment l'appellation, mais tout, on dépend de la Croix-Rouge française.
Très bien,
effectivement.
Très bien.
Alors, parce que moi, on leur doit plein de choses à la Croix-Rouge.
Juste, je reviens sur le peu de nombre de d'hôpitaux dédiés aux enfants. En préparant le dossier, j'ai pu lire qu'il y avait juste une petite dizaine tout au plus de centres hospitaliers dédiés aux enfants sur le territoire.
Qui sont pas les hôpitaux aigus où on fait plein de choses, c'est des soins, on nous appelle actuellement, oui. Des soins médicaux et de réadaptation. Avant, on nous appelait les soins de suite. Après, on a changé l'appellation là tout récemment.
Oui.
Pas moi, hein. ALAS. C'est des soins médicaux et de réadaptation. Donc, en fait, médicaux, c'est-à-dire on continue le soin médical et on réadapte selon l'enfant, selon ce dont il a besoin, comme la rééducation, la kiné, l'ergothérapeute, l'orthophoniste, la diète, les psychologues, tout ça, on les accompagne, voilà, dans tout ça. Et je reviens surtout au cancer de l'enfant. Vraiment, c'est une pathologie qui a eu plein d'évolutions, hein, donc sur le plan thérapeutique, sur le plan de la prise en charge. Moi, je vous dis, je ne vous cache pas, étant jeune médecin, quand on me disait cancer, je dis, c'est fini.
Oui.
Et là.
Et aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est un autre regard que j'ai. Vraiment un autre regard. Oui. Et dans l'accompagnement de tous ces, de l'avancement de la médecine, vis-à-vis de cette cellule qui nous fâche, fâche notre corps. Et donc, on évolue, hein, vraiment. Et dans ça, comment nous, comme SMR, comme ces petits hôpitaux qui suivent après la phase aiguë, comment apporter du bonheur à ces enfants-là, malgré les protocoles, la chimiothérapie, c'est quand même quelque chose. Donc, on apprend chaque jour.
Oui, parce que ce qu'il a de formidable, cet hôpital, c'est que c'est une ville dans une ville, hein, quelque part. Hein, il est complètement autonome pour les enfants. Enfin, vous allez nous expliquer tout ça. Alors, juste avant, peut-être, Isabelle. Vous êtes aujourd'hui le médecin-chef, hein, de cet hôpital.
Depuis 2020, depuis l'année Covid.
Très bien, 2020. Et peut-être quelques mots sur votre parcours.
Sur mon parcours, alors, à la faculté française de médecine, au Liban, à Beyrouth.
Oui,
donc
oui.
J'ai fait mes premiers pas de médecine. Et après, je suis venue ici pour me former en gastro-entérologie pédiatrique. Donc, j'ai commencé ma pédiatrie au Liban et j'ai continué ici en gastro-entérologie. Et j'ai fait comme tous les autres médecins. Hein. Donc, on fait des diplômes universitaires et on avance progressivement. Et je suis retournée après au Liban pour exercer. À un moment donné, moi, je ne me sentais plus faisant partie de ce petit pays parce qu'il y a vraiment une évolution des mentalité. Et Madame Aubier, un jour donné, elle m'a dit, j'ai besoin d'un médecin, je te connais, tu as déjà fait des gardes et j'ai participé à la vie de ça, donc est-ce que tu veux venir comme médecin, tout simplement. Et c'est comme ça que je suis revenue en faisant partie de l'hôpital d'enfants Margency, maladie chronique.
Oui.
Maladie cancéreuse. Ça, c'est des choses qui me disaient, mais en fait, je ne les ai pas vécues. Et j'ai commencé comme ça, à vivre la maladie chronique avec les enfants.
Très bien.
Et ça, c'est mon petit parcours. Après, chaque jour, c'est
nouveau pour
c'est
vous.
Nouveau.
Oui, je comprends.
C'est à nouveau un sourire d'un enfant, une larme d'un enfant ou quelqu'un qui me casse la porte et tout ça. Ça, on le vit tout le temps.
Mais c'est le quotidien.
Voilà, c'est le quotidien. Et c'est un lieu de vie, cet hôpital. Malgré tout ce qu'on donne aux enfants, c'est-à-dire tout ce qui est médical, tout ce qui est soins et tout ça, ça reste un lieu de vie. On privilégie ce lieu de vie. complètement.
Voilà. Ouais, pour avoir le bonheur de ces enfants-là.
Oui. On a eu l'occasion d'échanger avec Thierry Brun hier sur ce lieu de vie qui est incroyable, quoi. Oui. Vraiment. Alors, l'hôpital a combien de lits ?
106 lits actuellement. 106 lits. On est enregistré à 106 lits. Là, avec la Covid et tout ça, il y a des lits qui sont inoccupés, mais on va y arriver à faire cette activité-là. On a des idées dans cette activité-là. On a actuellement 31 à 33 lits entre la pathologie hématologique cancéreuse, les tumeurs solides, les post-greffes. Et puis, on a à peu près entre 50 et 70, selon ce qu'on remplit, les autres pathologies. D'accord. De l'enfant, qui ne relève pas de la pathologie de la cellule cancéreuse.
Oui. Vous n'accueillez pas que des enfants qui ont des pathologies cancéreuses.
On a toute une équipe, vraiment, d'oncologues pédiatres qui sont formés pour faire les protocoles, qui savent manipuler, même avec la pharmacienne. On a deux pharmaciennes qui nous aident aussi à avancer dans tout ce programme, dans tous ces protocoles.
Je crois que c'est vous-même qui créez vos propres chimios, c'est ça ?
Oui, effectivement. Mais tout ça...
Est-ce que c'est particulier à cet hôpital ou tous les hôpitaux ?
Non, tous les hôpitaux ne l'ont pas. On mutualise, mais notre hôpital, vu vraiment la spécificité pédiatrique et avec donc l'accord de tous les centres onco-hémato, donc on n'a pas travaillé comme ça. Tous nos médecins-chefs avant et tout ça, ils ont œuvré pour ce qu'on est... suffisance,
vous vous suffire à vous-même.
Autarcie,
presque.
Oui, totalement, c'est ce que je voulais dire, en autarcie. Et je vous dis franchement, sans l'activité de l'équipe médicale, plus la pharmacie, nos deux pharmaciennes et les préparatrices, on peut pas y arriver. Donc on a tout le temps, même si parfois ce n'est pas facile, le contact humain, mais on y arrive. Mmh. On y arrive pour le bien de l'enfant. Et si vraiment les molécules, là, par exemple, là, maintenant, c'est des molécules plutôt ciblées contre la cellule et qu'on ne l'a pas parce que c'est trop cher, des molécules qu'on ne peut pas, nous, les avoir, ils partent, ces enfants-là, ils n'ont pas d'autres choix. Ils viennent avec nous pour continuer la rééducation et l'administration de ce traitement peut se faire dans les hôpitaux d'origine. Donc, on fait vraiment un contact ensemble.
C'est une vraie chaîne.
Une vraie chaîne
de solidarité.
Totalement.
Ce sont des enfants de quel âge ?
On a de 2-3 mois jusqu'à l'âge de 18 ans.
Oui.
18 ans, ça devient un tout petit peu épique parce qu'en fait, on doit passer la main à l'adulte. Mais on a eu quelques patients et on les a accompagnés jusqu'à l'âge qui passe à l'âge adulte après.
Et le temps moyen
tous ceux qui nous écoutent vont dire en dehors de ceux qui sont là pour longtemps, parce que en fait les soins ne peuvent pas se faire à la maison, la moyenne c'est entre 190 jours à 230 jours, c'est comme ça qu'on en fait le protocole de chimio ou d'autres traitements, minimum 3 mois jusqu'à 6 mois et parfois 1 an. Et après, on vit au jour le jour avec la cellule, la méchante cellule, et qui peut parfois faire des complications et on les accompagne dans ça aussi.
Et alors donc, je disais que c'est un hôpital c'est une ville dans une ville, donc vous disposez d'une école déjà.
Totalement.
Ce qui est incroyable que les enfants finalement ont quand même une vie pour ceux qui le peuvent.
Totalement, on a fait la rentrée scolaire.
Très bien.
Non, c'était très bien. Il fallait voir comment c'était comme un rush le lundi matin pour aller à l'école. Alors, il y a une école, dans la même école, il y a une salle protégée. C'est-à-dire pour les enfants qui ont besoin de
une
ne pas être...
Une salle stérile un petit peu.
Voilà. Oui. Et quand on a une infection virale, parce qu'on sait comment ça a été dans la Covid, on les mélange pas. On essaye d'être vigilant sur ça. Donc il y a l'école, oui, effectivement. C'est une partie de notre vie.
Voilà. Et donc combien d'élèves à cette rentrée ?
Alors, normalement, je peux dire vers... je n'ai pas le chiffre exact, mais à peu près vers les 15-20, à peu près. après, donc et qui peut s'échelonner. Et l'équipe éducative, les instits, la directrice de l'école s'adapte à chaque ça qui est génial. Hein.
Bien sûr.
Elle a fait passer le brevet, le bac. On a réussi.
Oui, formidable. Ouais. Merci Isabelle Pharaon. Merci. Il faut qu'on fasse une pause. Je pourrais vous laisser la parole tout le temps, mais voilà, on va faire une petite pause et on reprend cette interview très intéressante tout de suite. L'économie en direct, et ce matin pour cette reprise des émissions, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Pharaon, médecin-chef de l'hôpital d'enfants de Margency, Thierry Brun, maire de Margency, Vanessa DeVos, vice-présidente bénévole de l'association Élise, princesse courageuse. Alors Isabelle Pharaon, une des particularités de cet hôpital, donc il a son école, mais il a aussi il y a la maison des parents qui a été inaugurée en 2019 avec la présence de Madame Macron et Laurie Pester, dont nous venons d'écouter un de ses succès, qui est marraine de l'établissement.
Totalement, elle a été, elle nous a accompagnés avec notre directrice Madame Oudiri, donc vraiment il y a eu tout un travail en amont de l'inauguration de la maison des parents, et vraiment Laurie a été plus qu'une marraine. Hein. Donc, oui, vraiment, oui, elle a été à côté, elle a adopté, elle nous a adopté, et ça, c'est vraiment pas de...
C'est un grand cœur.
Ah ouais. Oui, totalement.
Et c'est vrai, vous avez raison de citer Madame Oudgiri, qui est la directrice de l'hôpital, et qui elle aussi a complètement embrassé cette fonction.
Elle nous accompagne et elle a vraiment à cœur que ses enfants, les parents, et c'est surtout cette unité parents-enfants qu'elle s'est acharnée à faire de une partie. En fait, l'hôpital est dans le parc d'un château, donc on a le château qui est c'était vraiment la maison des parents et le château devenait pas...
Oui, était en mauvaise santé.
Voilà. et donc, elle a pu, avec donc Laurie, elle a tout essayé pour avoir vraiment les sous pour pouvoir...
Les fonds pour
ouvrir
pour
ça.
Pour aboutir.
Et toutes les deux ont réussi.
Elle s'est bagarrée.
Et
donc vous disiez que pour cette maison des parents, donc je suppose que la ville de Margency a eu sa part probablement.
Totalement,
Thierry Brun, si vous voulez nous dire un mot de cette maison des parents.
Alors la maison des parents, c'est peut-être important aussi de rappeler, Isabelle, l'importance de la présence des parents en fait.
Ah oui, totalement.
Ça, c'est très important. C'est pour ça que la maison des parents, bon, qui existait, comme ça a été rappelé, dans le cadre du château, dont a été effectivement inauguré en 2019 pour construire et placer. Donc il y a 30 chambres de mémoire, enfin 30 emplacements. Mais ce que je voudrais effectivement peut-être revenir, c'est sur la place du parent dans effectivement le soutien de l'enfant. En fait.
La plupart de nos patients n'habitent pas la région parisienne, et donc ils ont besoin d'être là. Et cette unité parent-enfant donne vraiment du peps pour que l'enfant continue à résister, et l'accompagnement des parents avec les associations. On a l'association Giampaolo qui est là, qui nous accompagne depuis longtemps, et c'est pour ça que la maison des parents était vraiment une urgence,
une nécessité incontournable.
Une nécessité pour avoir un lieu adapté à ces parents-là, même la cuisine, même les petites choses, donc la buanderie, tout ça, tout a été vraiment construit sur ça. Voilà, c'était vraiment l'importance de la présence de ces parents-là dans la vie de leur enfant, pouvoir les accompagner.
Et d'ailleurs, vous avez peut-être fait ce constat, c'est-à-dire qu'à partir du moment où cette maison des parents a été en service, vous avez pu noter le bienfait l'attitude des enfants.
Totalement, sur l'attitude. En fait, on ne peut pas soigner un enfant sans avoir vraiment ce contact avec les parents, sans avoir l'écoute aux parents.
Surtout qu'il y a des enfants, il y a des enfants très jeunes.
Et qui ne viennent pas d'ici aussi.
Qui
avaient toute la culture. On ne pouvait pas leur donner la même culture que leurs parents. C'est vraiment quelque chose qui doit être... on est ensemble dans ça. Et la maison des parents, c'est un lieu de repos pour les parents. Voilà. Vraiment.
Et donc, la ville de Margency s'est battue avec Laurie aussi pour obtenir cette maison des parents.
La maison des parents, c'est d'abord, avant tout, donc deux ailes de château. Des châteaux historiques qui ont été refaits, plus la maison des parents. Donc il y avait un caractère historique en fait à cette maison des parents. Donc la ville, bien sûr, de Margency a œuvré, contribué et soutenu donc le projet, permis de construire, bien sûr, enfin l'ensemble des éléments qui a consisté donc à pouvoir faire ce projet, qui était un projet au départ difficile, parce que ça a été un projet qui a nécessité bien sûr beaucoup de financement.
Bien sûr.
Et c'est de la rénovation, et donc d'ailleurs le résultat est splendide.
Il est très réussi.
Pour l'anecdote, il y a une toiture en fait multicolore, enfin en tout cas avec des tuiles de différentes couleurs, qui ressemble un peu à ce qu'on trouve donc en tout cas dans mes origines en Provence, des toitures de Provence en fait.
Oui, c'est vernissé un petit peu.
Oui, et puis c'est différentes tuiles. Et donc la ville a décidé d'ailleurs depuis d'en faire une signature pour les différents établissements.
D'accord.
Ça, c'est effectivement une petite parenthèse, mais c'est-à-dire que la maison de santé, les anciennes écuries qui seront en restaurant, les différents logements, on en reparlera, qui sont destinés ou qui seront destinés aux soignants, vont avoir cette signature qui a été en fait à l'origine décliner et proposer donc dans la maison des parents, ce qui crée effectivement un ensemble très intéressant et très agréable pour les conditions de vie des parents. C'est vrai que Isabelle l'évoquait, il y a beaucoup de parents qui viennent des territoires d'outre-mer notamment, enfin pas uniquement, mais beaucoup de territoires d'outre-mer, donc ils se retrouvent arrachés de leur vie familiale d'origine. Souvent, c'est un des parents qui vient, laissant une partie de la famille. L'autre parent et d'autres enfants, bien sûr, loin. Il y a besoin d'avoir des conditions, bien sûr, pour entourer en fait ces parents qui en plus viennent avec souvent très démunis en fait
bien sûr,
donc
bien sûr.
Ça a été cité effectivement, les amis de Gianpaolo font un travail remarquable pour les parents, parce que souvent les parents arrivent de manière un peu soudaine, ils ont besoin à la fois d'absorber et de prendre cette période en fait de soutien à leur enfant, et en même temps il y a des sujets aussi très matériels, très pratiques,
bien sûr,
aussi
oui,
à régler. Donc c'est effectivement une initiative très intéressante pour la maison des parents. Mais on réfléchit à d'autres initiatives dans le futur aussi pour accompagner
vous allez nous,
les parents
nous en parler
et les soignants, bien sûr.
Dans quelques instants. Isabelle Pharaon, donc on sent que c'est un établissement très très à la pointe, hein, et vraiment qui mérite d'être connu. Si vous aviez des besoins à exprimer pour votre établissement, quels seraient-ils ?
Quels sont les besoins ? Ah, vaste question.
Il y en a trop, peut-être.
Hein,
oui. Ce qui vous vient comme ça, spontanément.
Qui me vient comme ça, c'est le montant de la journée, mais bon, en fait il y a eu un changement au niveau de la prise en charge journalière du patient qui a été diminuée, et je crois que cette prise en charge nous a vraiment vraiment coûté. Il faut probablement revoir. Je demande vraiment qu'il revoie vraiment le montant cette journée au niveau de nos tutelles, de nos.
C'est l'exécutif qui peut en décider.
Parce qu'en fait, ils peuvent dire pourquoi il y a les SMR. SMR, c'est une partie de la vie, de la santé de chacun de nous. C'est comme pour les adultes, hein, on a les suites de l'hospitalisation dans l'aigu, dans les grands centres hospitaliers. Certains patients ne peuvent pas rentrer au domicile. Donc, il faudrait vraiment respecter cette partie-là aussi, comme les autres. Moi, je privilégie aussi la partie ambulatoire, c'est-à-dire qu'on ne s'attache pas, quand on prend un patient, c'est vraiment diminuer sa durée d'hospitalisation, par exemple.
Bien sûr.
Et donc, comme je le dis tout le temps, l'argent est là, c'est le nerf.
Oui, c'est le nerf de la guerre.
C'est le nerf de la guerre, c'est le nerf de tout. Voilà,
Faut faire revenir Madame Macron pour lui parler de ce problème.
C'est vraiment ça.
Je crois que dans les temps actuels, je pense qu'on peut lancer déjà un appel au futur ministre de la Santé qui sera nommé sans doute dans les prochains jours pour effectivement avoir une attention particulière sur effectivement ce prix de la journée.
Et une autre question, Isabelle. Donc il est question, on entend beaucoup parler de pénurie de médecins. Est-ce que l'hôpital d'enfants de Margency souffre de cette pénurie ?
Oui, je ne vais pas le nier. Et en plus, nous sommes une équipe qui est vieillissante.
Oui.
On prend de l'âge aussi, nous.
Oui.
Et en fait, on doit faire passer la main. Et il faut être attractif dans tout ce qu'on fait. Et surtout que parfois, le terme chronique de la maladie, parfois quelque chose de négatif. Et on essaye de dire non, c'est un lieu de vie. On essaye de toute l'équipe, hein, du plus petit de cette équipe jusqu'au plus grand de cette équipe, hein, en passant par la vie des éducateurs, par les assistants sociaux, tout ce petit monde, on est en train de redynamiser, de voir un peu comment on peut améliorer l'attractivité, que les médecins puissent venir. Totalement.
Mais je crois que Monsieur Thierry Brun a un projet dont il va nous parler pour ça.
Merci beaucoup Isabelle Pharaon, médecin-chef de l'hôpital d'enfants de Margency, et pour votre exposé, mais aussi votre investissement dans cette mission dont on sent qu'elle va bien au-delà de son aspect purement professionnel. Alors, juste si des parents nous écoutent et devaient être confrontés à cette terrible maladie qu'est le cancer pour leurs enfants, que pourriez-vous leur dire, un conseil peut-être ?
Continuer à se battre, continuer à vivre, à se battre.
Ouais. Ouais.
Parce qu'en fait, la cellule cancéreuse, elle est encore énigmatique, mais on y arrive petit à petit,
vous arrivez à la débusquer.
Les scientifiques, continuent et résistent. Vraiment, c'est le souffle de vie.
Bien sûr.
Fait, le souffle de vie, je l'ai appris, pas de chez moi, de ma famille, je l'ai appris ici en France. En fait, on se bat. C'est cet esprit-là. On se bat contre la maladie pour améliorer les conditions de la santé du corps, de l'enfant, de l'adulte, de tout le monde. Et ça, c'est exceptionnel. Je trouve que c'est extraordinaire.
Bien sûr. Et d'où cette campagne de Septembre en Or. On va en parler longuement aussi avec Vanessa tout à l'heure. Mais bon, évidemment, il ne faut pas donner que pendant un mois et puis plus rien donner après. Mais voilà, il faut sensibiliser ce mois de Septembre en Or. C'est un mois pour recueillir des dons pour faire avancer la recherche.
Oui, totalement.
Merci infiniment, Isabelle Pharaon. On marque une nouvelle pause et puis on se retrouve juste après.
T'as de la fièvre, je tremble. Devant tes lèvres, il me semble que je fais bien de me taire. Tu fermes les yeux, je me perds. Quand t'as la rage, je suis sanguin. Quand tu voyages, je me sens loin. Dans cette partie de poker, disons que t'es mon joker. C'est donc ça, la fusion de deux corps élémentaires. C'est donc ça, être complémentaire. C'est donc ça, aimer quelqu'un beaucoup plus fort que soi. C'est donc ça, besoin de rien pour s'endormir le soir. C'est donc toi, la fin du jeu. Ils sont beaux nos échanges, au point qu'on pourrait vivre avec un cœur pour deux. Chaque fois que je cours, tu t'essouffles. J'appelle au secours et tu souffres. La vie me pique, ça te fait mal. Tu te fatigues, j'en ai marre. Si on t'abîme, je prends le coup. Tu manges un fruit, j'en ai le goût. J'ai froid, t'es la fée d'hiver. Pour réchauffer l'univers. C'est donc ça, l'addition de deux corps élémentaires. C'est donc ça, être complémentaire. C'est donc ça, aimer quelqu'un beaucoup plus fort que soi. C'est donc ça, besoin de rien pour s'endormir le soir. C'est donc toi, la fin du jeu. Ils sont beaux nos échanges, au point qu'on pourrait vivre avec un cœur pour deux. C'est donc ça, aimer quelqu'un beaucoup plus fort que soi. C'est donc ça, besoin de rien pour s'endormir le soir. C'est donc toi, la fin du jeu. Sont beaux nos échanges, au point qu'on pourrait vivre avec un cœur pour deux. Le temps ne sera pas délétère. Tu sais, j'ai hâte de vieillir avec toi. Je te laisserai pas quitter la terre. Je me mettrai entre ciel et toi. C'est donc ça, aimer quelqu'un beaucoup plus fort que soi. C'est donc ça, besoin de rien pour s'endormir le soir. C'est donc toi, la fin du jeu. Ils sont beaux nos échanges, au point qu'on pourrait vivre avec un cœur pour deux. Au point qu'on pourrait vivre avec un cœur pour deux.
IDFM Radio, le média valdoisien.
C'est l'économie en direct et pour cette reprise, le thème de l'émission, c'est l'hôpital pour enfants de la Croix-Rouge à Margency et Septembre en or dédié au cancer pédiatrique en compagnie de Isabelle Pharaon, médecin-chef de l'hôpital d'enfants de Margency, établissement de santé privé d'intérêt collectif géré par la Croix-Rouge française. Thierry Brun, maire de Margency, Vanessa DeVos, vice-présidente bénévole de l'association Élise, princesse courageuse. Thierry Brun, donc merci d'être avec nous ce matin. Comment l'existence de cet hôpital influence la vie quotidienne de vos administrés? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question?
Oui, je peux.
Je vous en prie.
En fait, déjà, je voudrais dire toute l'émotion que procure l'hôpital d'enfants de Margency. Bien sûr, une émotion... sur le territoire, mais sur, bien sûr, la ville de Margency. L'émotion, parce que on a un mélange d'émotions qui est de la reconnaissance face à l'engagement de professionnels. On parle de professionnels de santé, il y a aussi des éducateurs, il y a un ensemble, bien sûr, de personnel. Il y a à peu près 300 salariés sur l'hôpital, donc on donne ces chiffres-là. On ne s'imagine pas parfois que
qu'il y a autant de personnes.
Il y a beaucoup de personnes, c'est logique, c'est normal. Et donc c'est beaucoup de reconnaissance, donc beaucoup d'émotions déjà. Et donc la deuxième chose, c'est aussi beaucoup d'humilité, parce que face à la maladie, face à cette nécessité de s'engager en tant que professionnel, pour que les enfants puissent retrouver effectivement la guérison, c'est aussi pour les Margencéens, au-delà de cette reconnaissance, c'est aussi une fierté de se dire sur le territoire, on est aussi très très fiers d'avoir un hôpital qui fait une action vraiment très très engagée auprès d'enfants qui sont malades de pathologies lourdes, en fait. Donc c'est cet ensemble là qui, et puis quand on écoute bien sûr le docteur médecin chef Isabelle, forcément on sent que c'est passionné. Donc nous on est là en fait avec beaucoup d'humilité pour soutenir l'hôpital dans tous ses projets. Quels qu'ils soient, du plus petit projet, et bien sûr on invite l'ensemble des enfants, des médecins, de la direction aux cérémonies, de façon à ce que l'hôpital soit impliqué dans les événements de la commune, mais aussi qu'on puisse être impliqué et soutenir, y compris, bien sûr, c'est des aspects financiers, l'ensemble des projets de l'hôpital. Donc c'est à la fois beaucoup de reconnaissance, beaucoup de fierté aussi, et beaucoup d'humilité face à la vie, au combat de la vie.
On se rend compte que face à la maladie, on n'est plus rien.
Donc c'est une leçon chaque fois qu'on va à l'hôpital, et chaque fois qu'on croise effectivement, qu'on dialogue avec des professionnels de santé, on l'a vécu en fait bien sûr aussi au Festival Tropical où on a fait un passage très émouvant en fait à l'hôpital avec bien sûr donc les différentes troupes du festival. Ça, on voit des étoiles dans les yeux des enfants, et c'est ce qu'on peut effectivement apporter humblement, c'est-à-dire apporter quelques moments effectivement de joie, d'évasion, de répit. Et on a, c'est vrai, il y a quelques années assez tôt, proposé d'ailleurs des partenariats, notamment je me rappelle avec le tennis club de Margency, pour justement qu'il y ait des découvertes tennis pour les enfants qui peuvent bien sûr se permettre, qui ont un accès et donc une autorisation surtout médicale pour aller découvrir effectivement le tennis en passant bien sûr par le parc de la mairie. Donc voilà, donc ça fait partie de l'ADN de Margency, des habitants, et les habitants bien sûr sont forcément très très émus d'avoir cet établissement sur leur territoire à proximité.
Oui, on sent en vous, Thierry Brun, que vous êtes très engagé. Est-ce que vos prédécesseurs étaient dans ce même état d'esprit?
Oui, je le pense aussi, parce que c'est comme le rappelait Isabelle, c'est un établissement qui existe depuis quand même fort longtemps. Donc il y a tout un historique en
c'est
fait,
ça, hein,
donc
qui
fait que les villes ont accompagné, enfin la ville a accompagné pendant toutes ces dizaines d'années l'hôpital dans son développement, et l'hôpital va bien sûr aussi se développer dans le futur. On en est certain aussi.
Alors oui, on a bien compris hein, que la municipalité soutient l'hôpital hein, dans ses missions. Quelles sont les initiatives que vous envisagez pour soutenir ou développer davantage les services de l'hôpital ou en tout cas les conditions de ce personnel qui est nombreux?
Alors il y a un défi qui a été évoqué déjà, c'est le défi du recrutement.
Oui.
C'est-à-dire que, bien sûr, les professionnels de santé ou en tout cas les différentes personnes qui sont à recruter à l'hôpital, bien sûr, sont confrontés bien sûr à forcément souvent des choix de se dire ben je vais soit à l'hôpital de Montgency, soit dans un autre hôpital ou dans une autre structure de soins. Donc un des éléments qu'on a mis en place et en tout cas qu'on met en place déjà dès à présent, en tout cas à notre niveau sur la ville, c'est de créer du logement au profit des professionnels et en tout cas des salariés de l'hôpital de Montgency. On a commencé à le faire déjà avec un premier programme dans le cadre du 1% logement et on a réussi bien sûr à pouvoir proposer donc à un certain salarié de l'hôpital donc des logements à forte proximité. Alors quand je dis à forte proximité, c'est vraiment à 50 mètres hein, donc en l'occurrence pour le 3 ou 1 3 rue Henri Dunant, donc vraiment un établissement qui est composé de 60 logements et dans lequel il y a déjà quelques personnes qui sont salariés de l'hôpital et qui sont en location dans le cadre effectivement de ce projet-là. Et on a un projet aussi qui est particulier, qui est de construction, qui va démarrer donc en 2025, donc dans les prochains mois, et qui va être s'étaler sur 2025 sans doute jusqu'à début 2026, de construire 30 logements qui vont être entièrement dédiés. Donc aux différents salariés de l'hôpital de Montgency. Alors ça participe sur au fait déjà d'une stratégie un peu plus globale de la ville et de la communauté d'agglomération de Plaine-Vallée, puisque aujourd'hui on a un plan qui s'appelle le plan climat air énergie territoriale. Ce PCAET, ce plan climat air énergie territoriale, vise à ce que on puisse bien sûr diminuer bien sûr les effets
oui,
de serre en particulier
voilà, oui,
et
ouais.
Donc notre objectif en tout cas dans le cadre de la stratégie
hein,
voilà
notamment.
Dans le cadre de la stratégie en fait de la ville, c'est de pouvoir par exemple dans le cadre du plan de développement durable, le PADD, diminuer le nombre de voitures sur la ville. Alors quand on voit les embouteillages actuellement notamment le matin, on voit que le défi est assez important. Donc un des axes qui est fort, c'est de se dire aujourd'hui sur la ville, on a deux établissements qui sont majeurs, qui sont bien sûr l'hôpital d'enfants de Montgency, et on a aussi un établissement scolaire qui est très représentatif aussi pour le département et pour l'Île-de-France. C'est donc le collège-lycée et enseignement supérieur Notre-Dame-de-Bury. Donc on a aujourd'hui globalement 790 personnes qui travaillent sur la ville de Montgency. Et donc cette réflexion part du fait que sur ces 790 personnes, il y a un certain nombre de personnes qui vont vouloir pouvoir travailler sur la ville, mais aussi avoir la volonté de pouvoir se loger sur la ville. Donc ce qui va réduire considérablement, bien sûr, leur trajet, domicile, lieu de travail, et donc permettre donc à l'hôpital, bien sûr, d'avoir des personnes qui sont à proximité, donc dans des conditions de vie et de qualité de vie qui sont meilleures. Et bien sûr, pour la ville, ça nous permet d'avoir des personnes qui sont plus présentes sur le territoire et qui seront à même, bien sûr, de pouvoir, on l'espère, aller à pied.
Oui, bien
donc
sûr.
Sur le lieu de travail. Et puis, bien sûr, naturellement, être un peu plus consommateur, un peu plus acteur de la ville quand on est sur le territoire. On l'a vu, d'ailleurs, notamment dans la phase Covid, les gens étaient beaucoup plus acteurs parce que beaucoup plus en télétravail. Aujourd'hui, on voit les gens sont beaucoup plus en fait en télétravail que dans le passé, évidemment. Parfois 2 à 3 jours par semaine. Et on voit des incidences directes. Hein, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus de personnes qui sont à l'entrée ou à la sortie des écoles. On voit beaucoup plus de personnes, bien sûr, dans les parcs. Il y a un indicateur qui est assez surprenant. En fait, on a doublé le nombre de déchets qui sont collectés directement dans les poubelles de Montgency, puisqu'on a beaucoup plus de personnes qui sont sur les territoires et dans les parcs de la ville. Donc en fait c'est un projet qui a horizon fin 2025, début 2026, et sur lequel alors faut redonner effectivement la l'origine de cette idée, bien sûr, au Conseil régional d'Île-de-France,
oui.
puisqu'on a signé une convention entre le Conseil régional d'Île-de-France, Action Logement et les services, bien sûr, de l'État. Et c'est par cette convention-là qu'on pourra attribuer, de manière effectivement prioritaire et exclusive, aux salariés de l'hôpital. Oui. Puisqu'en fait, ce sont des logements, bien sûr, qui seront des logements à prix modéré, des logements sociaux, mais qui, effectivement, de nature, ne pourrait pas être, bien sûr, en priorité s'il n'y avait pas cette convention attribuée uniquement à des salariés.
C'était le défi. Un défi d'autant plus important parce que moi, à travers tous les invités que je reçois, j'avais noté que depuis plusieurs années, le Val-d'Oise s'engage justement à réduire cette empreinte carbone en proposant des emplois sur le territoire pour éviter que les gens aillent sur Paris, Là, vous êtes en train de presque de devenir une ville pilote pour cet engagement.
Alors en fait, il y a deux aspects. Effectivement, il y a un aspect territoire qui est de dire on a des personnes qui sont sur le territoire et donc ils vont travailler en dehors du territoire, en tout cas en dehors du Val d'Oise, donc par exemple sur Paris, sur la région parisienne. Mmh. Et donc c'est intéressant de développer tout ce qui est économie. Ça fait partie d'ailleurs des compétences notamment de la CAPV, de la communauté d'agglomération Plaine-Vallée, de pouvoir développer des entreprises, donc créer de l'emploi
oui.
pour que les personnes qui habitent sur le territoire puissent travailler aussi sur le territoire.
Place, oui.
Et nous, en complément, effectivement, c'est un projet pilote. Ce que l'on fait, c'est qu'on identifie les personnes qui, au contraire, travaillent sur le territoire pour les faire venir habiter sur le territoire.
D'accord.
Et c'est les deux, conjugués qui vont faire que on va infléchir, on va pas révolutionner, mais on va infléchir. Bon, malgré tout, on parlait tout à l'heure du fait qu'il y a 300 salariés sur l'hôpital des enfants de Margency. La cible à terme, on pourrait atteindre, et on pourrait se donner l'objectif d'avoir, là on parle de 30 logements, mais on peut effectivement avoir, dans notre trajectoire, en tout cas qu'on a dessiné jusqu'à 2034, avoir donc 20% des salariés de l'hôpital, c'est représentatif 20%, qui soient à la fois salariés de l'hôpital et habitants de la commune en fait. Ce qui est un sujet vraiment, si on revient sur l'enjeu et le défi du recrutement, qui est un sujet, bien sûr, qui
est
une condition très intéressante à faire valoir pour les personnes qui sont recrutées.
Merci Thierry Brun. Je propose qu'on fasse une courte pause avant d'aborder avec vous, toujours dans le cadre du recrutement. Je crois que vous avez aussi une annonce à nous faire. On voit ça tout de suite après. À tout de suite.
Silver lining, we're no crime to make the headline news. If it's a matter for decision, you and I can be the ones to choose.
Je te donne mes espoirs cachés. Je te donne
très fragile.
La vie, c'est déjà si difficile.
Donner pour donner, tout donner, c'est la seule façon d'aimer. Donner pour donner, c'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer.
Oh, donner pour donner, tu donner. C'est la seule façon d'aimer.
Donner pour donner, c'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer.
Ce matin, nous traitons, nous parlons de Septembre en Or et de l'hôpital d'enfants de Margency avec à mes côtés Isabelle Pharaon, médecin-chef de l'hôpital d'enfants de Margency, établissement de santé privée d'intérêt collectif géré par la Croix-Rouge française, Thierry Brun, maire de Margency, Vanessa DeVos, vice-présidente bénévole de l'association Élise Princesse Courageuse. Thierry, encore une question avant de donner la parole à Vanessa. Donc on a bien compris que vous avez l'intention de veiller au bien-être du personnel de l'hôpital. Maintenant, il faut faire venir aussi donc toujours dans le cadre du recrutement, faire venir des jeunes médecins. Et je crois qu'il y a un projet en cours sur la ville de Margency.
Donc je dois faire des annonces.
Faites
c'est
des
ça.
Annonces.
C'est ça.
Vous êtes là pour ça.
Breaking news. Annonce.
Oui, absolument. Non.
Oui, en fait, on a, comme je le précisais, deux ADN assez fortes, entre autres, pas uniquement, puisqu'on parlait du développement durable, donc c'est quelque chose qui est en nous aussi, bien sûr, mais du fait de l'établissement qui est sur notre territoire et les établissements qui sont à la fois éducatifs et donc un établissement médical, évidemment, ça nous laisse penser au fait que ces deux mondes peuvent se rejoindre. Et donc, ce qu'on a en développement, ça a déjà été d'ailleurs écrit sur des publications, sur le magazine, c'est de pouvoir développer notamment le monde éducatif dans le domaine médical sur donc la commune de Margency. Donc, sans doute effectivement sur l'hôpital de Margency, sans doute aussi sur les établissements scolaires de Notre-Dame de Bury en enseignement supérieur. Donc, c'est effectivement un projet qui est instruit actuellement pour ouvrir et développer des écoles dans le domaine médical, dans le domaine de l'apprentissage aussi, parce que c'est un domaine qui est de plus en plus ouvert aussi aux fonctions médicales, donc pour la ville de Margency, ce qui permettra bien sûr de pouvoir aussi compléter les atouts nécessaires au recrutement, puisqu'on aura des étudiants qui pourront venir bien sûr sur la ville de Margency dans le domaine médical. Et donc, bien sûr, pouvoir aussi alimenter, si j'ose dire, donc les différentes ressources nécessaires, très spécialisées, souvent de plus en plus spécialisées,
bien sûr,
dans
oui,
le corps
ça
médical.
De plus en
donc,
plus pointu, oui.
Et donc, on a aussi, pas forcément sur le territoire d'ailleurs, notamment sur le Val d'Oise, on n'a pas forcément toujours des formations à proximité pour former un certain nombre de professions médicales. On sait très bien aussi que a été annoncée la création d'une faculté de médecine hein, sur sur donc le Val d'Oise.
Oui,
donc c'est,
oui,
c'est des choses qui vont dans le bon sens, et on prendra aussi notre modeste place aussi avec l'hôpital et bien sûr d'Enfants de Margency et donc Notre-Dame de Bury. Donc ça, c'est un sujet qui est extrêmement important, en tout cas en développement dans les prochaines années. Et la ville, bien sûr, soutient un soutien indéfectible à la fois à Notre-Dame de Bury et à la fois à l'hôpital des enfants pour aller dans son développement sur ces points-là. L'autre point qu'on a évoqué aussi tout à l'heure, c'est la relation parents-enfants. Et il y a aussi un autre sujet sur lequel on travaille actuellement avec un projet très concret, c'est des logements pour les parents qui sont donc sortants de l'hôpital. Puisque lorsque les parents ont un enfant qui est guéri, ils sortent de l'hôpital avec l'enfant. Dans beaucoup de cas, les parents, à juste titre, souhaitent rester à proximité de l'hôpital.
Ah oui, oui.
Donc ça veut dire que... pourquoi ? Parce que tout simplement, parfois, ils ont des soins.
Oui.
Réguliers, où ils continuent effectivement à vouloir être présents à côté de l'hôpital, et ils se retrouvent dans des situations, comme on l'évoquait tout à l'heure, parfois déracinés, venant de loin, donc il faut aussi les accompagner pour avoir bien sûr un logement, pour avoir une formation, pour avoir un emploi, et c'est sur ce projet, de manière très très concrète, que l'on travaille actuellement pour proposer à la fois l'accompagnement et à la fois donc les logements. Donc on a déjà travaillé sur donc un projet qui est en cours de travaux avec un bailleur associatif qui s'appelle SNL, où on a transformé donc deux maisons de ville rue Louis Muret sur Margency en 5 appartements. Et au moins un de ces appartements sera dédié justement à des parents qui seront sortants de l'hôpital. Mais on a un autre projet, beaucoup plus massif, j'allais dire, qui va permettre de proposer aussi d'autres logements justement aux parents qui sont bien sûr sortants de l'hôpital avec leur enfant et bien sûr avec l'accompagnement. Parce que quand on dit bailleur social associatif, c'est un logement mais aussi tout l'accompagnement qui va avec pour... faire son CV, prétendre à une formation, aiguiller, aider, accompagner les parents à aller vers, bien sûr, un emploi et bien sûr, un logement assumé.
Merci beaucoup Thierry Brun. On comprend que vous avez vraiment une vision globale de l'impact et du rôle de l'hôpital pour enfants de la Croix-Rouge à Margency. Ça doit être passionnant même de pouvoir avancer dans ces projets.
C'est aussi passionnant que la passion des médecins pour soigner les enfants.
Oui, je l'imagine. Très bien. Ben, merci à vous. Merci de tout ce que vous faites pour votre ville et puis pour son environnement. Merci Thierry.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
L'hôpital d'enfants de Margency et les cancers pédiatriques, un sujet douloureux, mais grâce à l'engagement de tant d'acteurs bienveillants, c'est un espoir et on a l'espoir dans un soutien précieux qui est offert aux enfants et à leurs familles. Et pour en parler, j'ai avec moi Isabelle Pharaon, Thierry Brun, Vanessa DeVos. Vanessa, donc merci d'être avec nous ce matin. Ça va devenir un rendez-vous incontournable parce que voilà, septembre en or, c'est un joli mois avec des belles couleurs. Mais c'est ce mois consacré au cancer pédiatrique et vous en êtes vraiment une digne représentante.
Ben, en tout cas, ici et de proximité. Absolument. Et c'est vrai que ça fait 2 ans, il me semble, et que, humblement, vous m'aviez quand même expliqué que vous ne connaissiez pas.
Non, il y a 2 ans. Absolument. Hein. Je l'ai découvert avec
grâce. Ouais. Et ça a été justement pour annoncer Octobre Rose, et on avait fait ensemble la clôture de Septembre en Or.
Oui.
Donc je vous en remercie vraiment humblement. Et depuis, chaque année, on relaie cette mobilisation, en fait. Hein, parce que du coup, l'idée, vous l'aviez très bien expliqué, ce mouvement qui est parti des États-Unis en 2012, Gold in September, qui a été... porté par le président Obama, qui est arrivé et porté par Gustave Roussy, puis ensuite oui. Les grands hôpitaux de référence depuis 2015. Mais c'est vrai que du coup aujourd'hui en 2024 on voit de nombreuses initiatives et pas que les hôpitaux de référence, les hôpitaux de proximité, les villes, les associations. Et moi, dans ce que j'entends, dans ces parcours, que ce soit à travers l'hôpital de Margency ou à travers la mairie, la ville de Margency, c'est qu'effectivement de cette maladie grave qui est le cancer de l'enfant, où il y a eu de nombreuses évolutions, comme disait très justement Isabelle, et comme nous on a pu le vivre effectivement, Élise malheureusement fait partie des 1 enfant sur 5 qui décède encore aujourd'hui. Il y en a encore 500 par an. Et ben, j'ai envie de dire que il faut continuer à se mobiliser, à avancer pour ces 500, pour aider, comme vous dites, ces médecins, tout le personnel, ces chercheurs, ces hôpitaux. Et ce qui est important aussi, c'est de se dire que cette pathologie, en fait, elle ne concerne pas que le médical. Il faut regarder bien plus loin. Et ça, on le ressent bien à travers tous nos témoignages, comme on a pu l'écouter. C'est une problématique sociétale, c'est une problématique économique. Donc il faut en prendre conscience vraiment en proximité, dans nos villes, parce que le cancer pédiatrique ou adulte, la maladie grave, aiguë, chronique, elle touchera en fait de toute façon dans notre société. Et il faut en prendre conscience dès le plus jeune âge.
Oui, oui.
Donc oui, à travers du coup notre histoire à tout à chacun, nous l'idée c'était effectivement de continuer malgré tout.
Peut-être faut-il rappeler à nos auditeurs, auditrices qui ne le savent pas, c'est cette association Élise Princesse Courageuse, c'est Élise elle-même qui en a eu l'idée.
Qui a porté,
ses
témoignages.
Et aujourd'hui vous continuez à transmettre ce don qu'elle nous a fait.
Cet élan de vie, comme parlait avec d'autres mots Isabelle. Quand il y a la maladie grave et même l'approche de la mort, il y a toujours un projet de vie avant, pendant et bien après. Et ça, les enfants gravement malades en ont aussi conscience.
Oui, parce que je pense qu'ils ont très probablement une maturité bien plus développée que les enfants en bonne santé.
Par la force des choses mais comme ils aimeraient être inclus dans notre société tout bonnement. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'Élise, dès 2017, âgée de 7 ans, elle se disait, mais comment moi je peux faire comprendre en fait aux autres qu'on peut être différent, malade, et avoir envie de vivre, de partir en vacances, d'aller à l'école, d'être bien sûr à l'hôpital, mais de faire sortir sa maladie. Et c'est vrai que c'est comme ça que ses petits amis porte-clés ont été relayés par ses commerçants, par d'autres personnes, qui ça a levé des premiers fonds, ça a pu aider des hôpitaux de proximité, parce que effectivement c'est un parcours, quel que soit votre origine socio-professionnelle, quelle que soit votre culture, en fait, quand ça touche l'enfant, ça touche toute la famille, la famille proche, bien moins sûr. Proche, les fratries, c'est du coup un choc brutal, dans votre vie familiale, professionnelle ou autre. Et ça, seul, vous pouvez rien.
On peut rien faire.
Voilà, il y a beaucoup, comme l'expliquait Isabelle, dans le cadre du coup de la prise en charge dans les maisons de réadaptation, mais il y a tout le quotidien en fait qui est fait entre les allers-retours entre la maison, l'hôpital, la société aussi quoi, et le après. Et nous on se dit aussi là dans les parents, quand on témoigne, quand on passe par là, il y a bien sûr cette violence qu'on peut rencontrer institutionnelle, où on va déjà il faut pouvoir accepter trouver ressources pour soi, pour les autres.
Ne pas sombrer.
Chercher ressources dans des institutions qui sont par moments, comme on disait, en recherche de moyens, malmenées, faire le lien avec d'autres. Et donc c'est important d'en prendre conscience dès le plus jeune âge. Et c'est pour ça qu'on continue, comme vous en parliez très bien, Thierry, sur Margency. Avant de connaître personnellement, je veux dire, le cancer pédiatrique et le lien avec l'hôpital de Margency, du coup, nos enfants faisaient des collectes de kits scolaires, des collectes d'hygiène, et du coup, avec les professeurs, ils se rendent dans les hôpitaux, on décloisonne tout ça. Oui. Du coup, nous, Élise, avec ce qu'elle faisait pendant son parcours, elle reproduisait ça, se rendre acteur en fait, d'aller voir les copains, de continuer en maternelle, en école primaire, voilà, d'expliquer simplement,
d'être un porte-parole,
d'expliquer simplement les choses. Et donc c'est ce qui a fait que on a continué les ateliers, continuent du coup sur Enghien et d'autres communes, enfin même Montmorency ou autres, enfin à la demande, sont faits par les enfants, par des bénévoles, et c'est vendu au profit de projets, que ce soit de recherche avec Gustave Roussy, mais des projets comme ce que l'on fait avec Margency. Chaque année, du coup, après le décès d'Élise, on livre des kits scolaires qui sont faits issus d'un vendu. Donc nous, on a conventionné avec de grosses associations reconnues d'utilité publique qui luttent contre la précarité et le gaspillage, qui récupèrent des invendus, et donc on a partagé notre projet sur ce risque de précarité chez ces enfants, familles gravement malades, atteints de cancer, et on récupère des invendus et on va dans les écoles, les collèges, pour justement sur ces projets-là. Donc ces kits que vous voyez sont faits par les enfants, pour les enfants, et ils sont livrés dans les hôpitaux de proximité, et notamment Margency, mais aussi Gustave Roussy, Necker. Et la particularité, depuis 2 ans, on est allé un peu plus loin pour aussi sensibiliser et parler vraiment de la différence jusqu'au bout, hein, au-delà du cancer, mais de la maladie grave. On a fait une très belle rencontre avec des éducateurs de la fondation John Bost, qui sont aussi dans le 95, et qui porte une équipe en fait d'accueil de jour pour des jeunes en situation de handicap, et qui les prépare à l'emploi. Et donc ils sont venus nous trouver en disant, ben nous aussi avec nos jeunes on veut vous aider. Et donc ce qu'on leur a dit, c'est ok, mais alors vous allez avec vos jeunes et nous jusqu'au bout du projet, c'est vous qui allez livrer ces hôpitaux et qui allez montrer que ces jeunes qui sont aussi par moments enfermés dans leur maladie, dans le voilà, c'est assez stigmatisé avec des troubles et des handicaps, ils vont depuis 2 ans, et d'ailleurs on a fait un super goûter de Noël à Margency, mais ils livrent leurs cadeaux qu'ils ont eux-mêmes emballés, voilà, les kits. Donc voilà, c'est ça
formidable.
Aussi de créer du lien. Et puis il y a bien sûr d'autres mobilisations, enfin on peut en
reparler.
Oui,
parce que je voudrais qu'on dise un mot. Donc vous avez fait une exposition du paraître à l'être.
Voilà.
Qui a eu une visibilité à Margency, justement au mois de fin juin, début juillet.
Alors c'était pas l'exposition, l'hôpital de Margency, c'était une très grosse journée bulle de mode.
Ah oui, bulle de mode, pardon.
Pour laquelle on a
Très bien.
C'est ça. Ouais.
Et là, depuis début septembre, donc c'est un parcours, hein, donc paraître à l'être, qui se décline entre Montmorency et Deuil-la-Barre, qui a commencé à Montmorency, qui se terminera à Deuil-la-Barre. L'inauguration était mardi. C'était une inauguration émouvante, hein, comme toujours. Quelques mots sur ce parcours.
Oui, alors c'est la deuxième édition, hein, cette exposition photographique du paraître à l'être. Donc, dans le titre, hein, vous pouvez ressentir tout y est, hein, du paraître à l'être, et ça a retranscrit donc des photographies qui sont faites justement autour de nos actions, donc à Gustave Roussy, et depuis aussi juillet, l'hôpital de Margency. autour de l'image de la mode à l'hôpital et justement de à travers un regard artistique et photographique par et la photographe Émilie Montcuclard avec laquelle nous travaillons, en fait, nous mettons aussi en lumière ce qui parfois peut être invisible, voilà, soit par malaise ou autre, et du coup nous on en fait des ateliers de shooting en or, et il y a du coup des témoignages qui peuvent y être apportés, et ça peut être des témoignages de parents, d'enfants, mais aussi de soignants, et c'est ce qui fait que ce parcours, donc je remercie vraiment nos deux maires des communes respectives, Maxime Thory de Montmorency et Muriel Scolland de Deuil-la-Barre, parce que cette deuxième édition, ça a été une coordination non sans mal de deux communes. Donc, comme vous le savez, travailler sur ce, c'est quand même assez complexe avec du coup. Le partenariat de Gustave aussi, il y a plus de 100 tableaux qui sont exposés à travers un parcours, j'ai envie de dire santé, parce qu'il faut aussi marcher, et donc on se dit pourquoi pas marcher ensemble pour faire face au cancer pédiatrique et puis guérir plus et mieux. Et donc, comme vous dites, l'inauguration s'est faite mardi en présence des deux maires, parce que pour moi, et c'est ce que je leur disais, vous, les maires, vous êtes aussi garants du bien-être, et vous connaissez les besoins de vos citoyens, de vos administrés. Il est important de l'inclure dans cette culture dès le plus jeune âge, en fait, que effectivement la maladie elle existe, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place en proximité pour aider ces familles. Voilà. Donc ce parcours, vous pouvez scanner du coup chaque tableau, accéder à un petit QR code qui vous donne accès du coup au témoignage. Vous pouvez parrainer cette exposition. Et elle se clôturera du coup le dernier week-end de septembre, donc si je ne me trompe pas, le 28-29 septembre à la salle des fêtes de Deuil-la-Barre. Et elle sera accompagnée d'une grande friperie et des ateliers autour de la mode adaptée, des ateliers couture par d'autres associations. Et tout cela, ben voilà, pour et mobiliser, et sensibiliser, et lever des fonds, parce qu'on a aussi envie, alors là, on l'a très peu abordé, mais ce projet Bulle de Mode, c'est un projet qui est assez global, parce que du coup, on fait intervenir l'aspect RSE des entreprises, oui. Des bénévoles, des stylistes que l'on paye. On aimerait faire des partenariats avec des écoles de couture, et ce que l'on fait depuis 2 ans avec Gustave aussi, mais avoir les moyens de pouvoir l'offrir à d'autres hôpitaux et d'autres structures. Donc c'est voilà, comme beaucoup, on a besoin de moyens, que ce soit humains ou financiers, et de la place, parce qu'en fait on se rend pas compte, mais il y a un grand besoin de stockage. Là on a un prêt de salles grâce à notre mairie, mais c'est vrai que c'est une problématique et pour les hôpitaux pour accueillir ce projet et pour l'association pour le développer.
C'est toute une logistique.
Donc septembre en or, mais voilà, c'est l'occasion, c'est ça, de fédérer et de mobiliser, que ce soit en proximité ou national, que ça ne reste pas qu'un problème médical, qu'on l'inclut dans notre société sur tous les pans. Enfin, on a tous fait le lien, parce que effectivement ces enfants, ces parents, ils ont aussi cette envie, ce besoin de rester en fait ancré dans notre société.
Complètement. Donc on rappelle que c'est l'occasion d'une Septembre en Or, c'est une grande campagne d'appel aux dons. Donc n'hésitez pas à faire vos dons pour la recherche contre le cancer pédiatrique, et puis aussi peut-être faire des dons à Élise, l'association Élise Princesse Courageuse. Que faut-il faire pour faire des dons à votre association, Vanessa?
Alors en proximité ou de manière, j'ai envie de dire, nationale, hein, vous allez sur notre site www.eliseprincessecourageuse.fr et ben, si vous avez envie de vous promener entre le beau parc de l'hôtel de ville de Margencis jusqu'au parc Churchill de Deuil-la-Barre, vous y verrez également des magnifiques tableaux arbres de vie qui ont faits grâce à Bérangère Bekaoui et qui ont été réalisés avec trois écoles, donc La Fontaine de Montmorency, vous avez l'école Atrel et Gallieni de Deuil-la-Barre, donc à travers ce parcours-là. Sur chaque tableau, vous pouvez scanner les QR codes, parrainer cette association. Donc oui, tous les dons sont bien sûr déductibles et donc une partie sera remise à Gustave aussi et l'autre partie sera réservée pour les hôpitaux de proximité et développer le bulle de mode dans le Val d'Oise, parce que dans le Val d'Oise on se mobilise aussi en proximité,
et puis on peut collectionner ici les goodies extraordinaires réalisés par les petits amis bénévoles, donc autant de petits gestes qui font que
On peut aider, porter le ruban en or, déjà en parler. Et effectivement, acheter nos goodies au forum des associations, dans nos magasins partenaires, sur le site, et faire voyager effectivement les petits amis d'Élise porte-clés, marque déposée. Il y en a plus de 50 000 qui sensibilisent et qui voyagent.
C'est formidable.
Voilà.
Et puis aussi arborer le ruban en or pour Septembre en or, donc ne pas hésiter à l'arborer. Haut et fort.
Et vous pouvez également nous aider. Vous voyez, ça va au-delà du Val d'Oise. Cette année, il y a la ville de Saint-Michel-sur-Orge qui a une 10e ou 11e édition. Je pense que je vais dire des bêtises et je m'en excuse auprès de Maria, mais qui organise la course en or portée par la ville de Saint-Michel depuis de nombreuses années et par Maria, une maman qui a perdu son fils Guillaume et qui cette année reverse intégralement cette course. Donc nous y serons tout le week-end parce qu'il y a une fête le 7 et le 8. La course sera dédiée au bénéfice de l'association. Donc pareil, vous pouvez partager cela, prendre un dossard, venir dimanche matin courir. Mais il y a toujours des liens qui se créent pour guérir mieux, pour guérir plus.
Il y a beaucoup d'événements ce week-end que nous avons la journée des associations. Merci beaucoup Vanessa DeVos pour ces activités essentielles. On vous souhaite bien sûr tout le succès mérité pour cette exposition et puis toutes les actions menées par Élise Princesse Courageuse. Vous savez que vous êtes toujours la bienvenue dans notre émission pour en parler.
Merci.
On arrive à la fin de cette émission. Alors j'ai toujours l'habitude de redonner la parole à chacun de mes invités pour une petite conclusion. Là, on n'a pas trop de temps, mais Isabelle, Pharaon, un petit mot de conclusion avant de nous quitter.
Alors, continuez.
Continuons. Merci infiniment. Thierry Brun.
Continuons ensemble.
Ensemble, merci infiniment. Et Vanessa.
Alors moi, je rajouterai continuons ensemble pour un monde meilleur.
Merci infiniment. C'est la fin de cette émission, pour cette reprise. C'était un sujet fort, mais j'étais très heureuse de pouvoir vous accueillir tous les trois ce matin. Merci d'avoir été les invités de l'économie en direct. Merci Vanessa pour la technique. Merci à vous tous, chères auditrices, auditeurs, pour votre fidèle écoute. Si ce numéro de l'économie en direct vous a plu, je compte sur vous pour en parler autour de vous. Et n'oubliez pas, son podcast sera disponible sur le portail de la radio. Dimanche, je rappelle que c'est la journée des associations et IDFM Radio y sera présente. Alors venez nous rencontrer, nous serons ravis d'échanger avec vous, auditrices, auditeurs qu'on ne connaît pas encore. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro de l'économie en direct. D'ici là, belle journée. Party girls, don't
get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, I feel the love.
Flèche normal. Et tu t'enfiles dans la file et faut pas que tu dépasses. À chaque fois que tu reskis, mais t'es qui? T'es pas normal. On s'attache et on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas